Donc, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de m'accueillir dans votre pays et ici. Donc, je vais très rapidement quitter ce pays pour vous emmener dans le monde des cités grecques antiques. Donc, si vous regardez la carte qui vous a été distribuée, un monde qui s'étend de la Méditerranée actuelle en passant par la région hellénique de la péninsule des Balkans et jusqu'en Asie mineure, donc la Turquie actuelle, si on peut dire, la moitié de la Turquie. Pourquoi le monde des cités grecques? Parce que dans l'Antiquité grecque, où il existe un grand nombre d'organisations des populations, il existe des peuples, des villages, des ethnies, des fédérations, c'est exclusivement dans le cadre de la cité, donc de cette formation politique, qu'apparaît ce que nous pouvons reconnaître comme la figure du juge. On rendait bien sûr la justice dans les autres types d'organisations, mais pas autour de la figure du juge. Donc j'exclus directement tous les autres systèmes, toutes les autres formes politiques. Et pourtant, si l'on va dans la cité grecque, si l'on regarde, le juge et la figure du juge sont assez peu pensés et assez peu représentés. Je pense que vous pouvez tous me citer un législateur mythique ou devenu célèbre. On connaît tous Lycurgue, Dracon, Solon, Pythagore, entre autres. Mais en revanche, citer un grand juge grec devenu célèbre sera beaucoup plus difficile, à l'exception peut-être d'Éaque, Minos et Radamante, ces trois juges aux enfers. Et encore, de leur vivant légendaire, Éaque, Minos et Radamante n'étaient pas des juges, c'était des gouverneurs. Et c'est parce qu'ils ont été des très bons gouverneurs de ce vivant légendaire qu'on leur donne ensuite le droit de juger aux enfers. Donc cette absence n'a rien d'étonnant. Elle s'explique par le fait que dans la cité grecque, tout citoyen est juge. Donc il n'y a pas de raison qu'un citoyen devienne particulièrement célèbre en jouant ce rôle. Ainsi, pour parler de la figure du juge, et avant même de passer au concept de figure du juge, pour parler tout simplement du juge dans la cité grecque, il faut revenir tout simplement à la définition de la cité grecque. Parce que, nous verrons, le juge est intrinsèquement lié à cette formation politique. Et celle-ci n'est pas une évidence, bien au contraire, la cité grecque est un concept, est une entité positive, artificielle. Ce que nous appelons cité grecque, et ce que les Grecs nommaient également ainsi, est une formation politique artificielle, donc, qui s'est développée à une période historique qui est l'époque archaïque, donc entre le 8e et le 6e siècle après Jésus-Christ, toujours selon les mêmes modalités, mais en détail, nous ne savons pas exactement comment se sont développées ces cités. Mais en tout cas, on peut dire qu'on a toujours la reproduction d'un processus en trois temps. À partir d'une situation politique originelle, qui était généralement une situation palatiale, c'est-à-dire qu'une population vivait sur le territoire avec un roi, autour d'un palais. Ce roi assurait les fonctions d'intendance, les fonctions protectrices, fonctions guerrières, sacrées, etc. Donc, à partir de cette situation, on va avoir un groupe d'hommes qui va se constituer en corps de citoyens. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il se donne des lois. Et troisième étape, il délimite un territoire. Donc, c'est très, très schématique. Il faut le voir avec énormément de nuances, énormément d'aléas. Mais en condensé, c'est ainsi que se sont formées les cités, en gros, entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ainsi, la cité grecque est intrinsèquement liée à ses lois. Ce sont elles qui la fondent et ce sont elles qui vont la protéger. Et la cité est également liée à la figure de Zeus, qui octroie aux hommes la justice, sans laquelle il n'y a pas de monde humain organisé. Donc la justice, c'est la cité, et la cité est transcendante aux citoyens. Dire le droit dans la cité consiste à reposer ses premières lois, ou à reposer les lois qui vont arriver au fur et à mesure, bien sûr. Donc le juge n'est qu'une courroie de transmission, finalement, entre la loi qui fonde la cité, qui la maintient, et puis l'acte qui a été commis. D'où le lien entre le juge et le législateur, et le juge est celui qui gouverne la cité. Donc lié à la cité, le juge va évidemment évoluer en fonction des aléas de la cité grecque, avec sans cesse une marge entre cette figure idéale du juge, ce citoyen qui rappelle objectivement la loi, et ce que sera véritablement un juge dans les cités grecques. Donc, si le lien entre la figure du juge et le citoyen perdure durant toute l'époque de l'Antiquité grecque, de l'époque archaïque à laquelle on commence jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, en revanche, le rôle du juge va progressivement changer et va se transformer radicalement. On va passer d'un juge idéal, tel que je vous l'ai un peu décrit, à une foule de jurés à l'époque classique, foule qui va s'amoindrir pour arriver à quelques citoyens qui vont continuer à juger et à une transformation de la figure du juge en magistrat à la fin de l'époque hellénistique, donc à l'époque où les Romains sont vraiment implantés, ont implanté leur pouvoir sur la Grèce. Alors nous allons tout d'abord voir ce qu'est ce juge citoyen. Et une première idée très importante pour les anciens Grecs était que la justice ne peut être conforme au juste, le juge équitable et garant d'une justice impartiale que dans le cadre de la cité. L'imaginaire grec opposait en effet deux périodes ou deux espaces. Il y a la justice dans la cité et la justice avant ou hors de la cité. J'insiste sur le hors parce qu'on n'est pas forcément avant la cité. On peut être dans des justices qui coexistent. Nous connaissons essentiellement la justice des cités grecques antiques, tout simplement parce que les sources sont les plus abondantes et parce que c'est une justice qui correspond assez à notre idée de la justice, donc on la retrouve assez facilement, ce qui n'est pas le cas dans les autres formations. Mais évidemment, le droit et la justice existaient hors de la cité grecque, sous d'autres formes. On voit dans les sources antiques, qui sont des sources de la cité, j'insiste encore une fois lourdement, que ces sources anciennes ont tendance à opposer clairement donc la justice rendue dans le cadre de la cité, où l'on trouve des juges impartiaux qui vont rendre la justice conformément à des lois, et une autre période, d'autres structures sociales où les décisions judiciaires relèvent d'une plus grande subjectivité. Donc j'ai pris deux exemples assez révélateurs de cette opposition. Le premier exemple est une scène de l'Iliade que vous avez, page 3, dans les documents qui vous ont été distribués. C'est le premier texte. C'est une scène très connue de l'Iliade. Il s'agit d'une des représentations faites sur le bouclier d'Achille le poète, essaie de mettre sous les yeux de l'auditeur. Donc on appelle cela une ekphrasis en littérature. Et il s'agit d'une scène de justice. On est à la période de transition entre un système palatial et le système des cités. Une dispute s'élève donc entre deux parties pour le rachat d'un meurtre. Le meurtre a déjà été commis. Ce qui est en question, c'est est-ce que la partie qui a tué a fait un rachat suffisant ou pas. C'est ça la question. C'est pas du tout le problème du meurtre. Et bien entendu, les uns disent que le rachat a été fait, les autres non. On a trois tableaux. La foule, qui est très importante, qui crie, qui prend parti pour les uns, parti pour les autres. Un cercle avec à l'intérieur ceux qui vont juger. Donc ce ne sont pas des juges, ce sont les anciens. Ce sont des juges, mais ils n'ont pas le nom de juge. Et puis les deux parties. La foule sur la place publique était attroupée. Une dispute s'y était élevée. Deux hommes se querellaient pour le prix d'un meurtre. L'un affirmait avoir tout rendu et le déclarait clairement devant le peuple, l'autre niait avoir rien reçu. Tous deux finissaient par avoir recours à un témoin. La foule criait, parti pour l'un, parti pour l'autre, soutenant l'un ou l'autre. Des héros alors contenaient la foule. Les anciens étaient assis sur des pierres polies dans un cercle sacré. Leur sceptre était aux mains des héros, dont la voix ébranle l'air. Ils le prenaient ensuite, s'élançaient, donnaient leur jugement à tour de rôle. Au milieu étaient déposés deux talents d'or pour celui qui, d'entre eux, obtiendrait le jugement le plus droit. Donc l'opposition va se solder par un arbitrage où l'on voit toute l'importance de la foule déjà, de la clameur qui va certainement influer sur les uns et les autres, où l'on voit également que l'issue de l'arbitrage relève davantage de la subjectivité, de l'habileté de celui qui va parler que du fond de l'affaire. D'ailleurs, on ne connaît pas très bien le fond de l'affaire. Donc là, on est dans une période avant la cité, pré-Poliade. Autre scène qui, elle, est contemporaine à l'époque des cités, est donnée par Hésiode dans Les Travaux et les Jours. Il s'agit d'une querelle entre l'auteur, Hésiode, et son frère, Persès, à propos de l'héritage paternel. Hésiode reproche à Persès d'en avoir trop pris. Et il l'invite, assez vigoureusement, à régler cette fois-ci la querelle, non pas hors des structures de la cité, donc dans la structure politique qui était la leur, mais bien dans une cité, devant des juges et devant des tribunaux. Réglons ici notre querelle par un de ces droits jugements qui, rendus au nom de Zeus, sont bien les meilleurs de tous. Tu as déjà, le jour où nous avons partagé notre patrimoine, assez pris et pillé dans le bien d'autrui, en prodiguant force hommage au roi mangeur de présents, toujours prêt à juger, suivant telle justice. Messieurs, etc., vous avez la suite du texte. Donc Hésiode va opposer très clairement la justice rendue par la cité, ses tribunaux, à la justice des rois. Alors les rois, c'est un terme comme un, on pourrait dire gouverneur, hein, c'est pas forcément des rois, hors de la cité. Et ces rois ne jugeaient pas selon des lois écrites, selon les lois de la cité, bien sûr, mais selon d'autres textes ou d'autres dits, des ITS, tout simplement. Donc on voit très clairement dans le texte d'Hésiode qu'à partir du moment où l'organisation politique est celle de la cité, la justice est bien rendue, parce que l'on a des lois écrites souvent, et on a des tribunaux. Dans ces tribunaux siègent des juges qui vont rendre la justice conformément aux lois. L'opposition est très claire entre les textes, ceux-là et d'autres, entre un avant ou un ailleurs soumis à l'arbitraire et éventuellement à la corruption, et l'ordre de la cité conforme aux lois et qui permet les jugements justes. Alors bien sûr, on est dans un texte littéraire, on est dans un texte plein de parti pris, mais cela rend néanmoins très bien compte de l'imaginaire de la cité grecque. La cité est l'endroit où l'on peut rendre la justice. Et le juge est donc une des figures fondatrices de la cité, en rappelant la loi qui fonde la cité. Donc si l'on revient à nos trois grands juges, trois seuls grands juges d'ailleurs, on a bien des fondateurs de cité. Éa qui avait fondé Égine, Rhadamante était gouverneur des îles de la côte égéenne et de l'Asie mineure, et Minos était également un législateur en Crète. Donc ils ont mené leur gouvernement avec droiture et sagesse, et c'est pour ça qu'ils sont devenus des juges aux enfers. Autre figure importante que l'on trouve dans le texte d'Hésiode, incidemment presque, c'est Zeus. Zeus, toujours très important, parce que dans la justice intervient le tirage au sort. Les juges ne sont pas désignés par une élection, mais par un tirage au sort, donc on a la volonté divine, la présence du destin dans la justice de la cité, à la base de cette justice. Donc vous l'avez compris, être juge est une des fonctions que remplit le citoyen grec. Dans les cités grecques, être juge n'est pas du tout un métier, c'est une des fonctions que peut accomplir le citoyen, et lui seul, et qu'il doit accomplir bien sûr. Un citoyen dans la cité se définit comme celui qui participe à la vie politique. Il n'y a pas beaucoup d'autres définitions aussi complètes. Donc concrètement, comment cela se passe-t-il? Chaque année, un nombre permanent de citoyens est tiré au sort pour participer aux différents tribunaux de la cité. On les tire au sort le jour de l'assemblée élective, donc une assemblée qui va élire tous les magistrats pour l'année, et également les juges qui ne sont pas des magistrats. Ensuite, les uns comme les autres entrent en charge à des périodes différentes dans l'année en fonction des besoins. Il y a quelques exceptions pour les juges. On a des tribunaux spécialisés quand même dans les cités grecques, comme l'Aréopage qui est très connu, qui est composé des anciens archontes, donc d'anciens magistrats sortis de charge. Les tribunaux commerciaux, beaucoup moins connus, qui sont en général composés par les magistrats compétents pour telle ou telle affaire. Mais en général, tous les grands tribunaux de la cité sont formés par des citoyens, et des citoyens tirés au sort. Donc, le nombre de citoyens potentiellement amenés à juger dans une année est considérable, évidemment. Dans certaines cités, on a des tribunaux très, très vastes. C'est le cas à Athènes, la plus connue, avec des tribunaux de 500 à 600 citoyens, comme à Délos, qui se calque sur Athènes, et des procès avec 401 juges, 201 juges, suivant les sommes en question, suivant l'affaire. Athènes est toujours une exception dans la Grèce antique, qui est formée d'une série de petites cités qui n'ont rien à voir avec l'ampleur d'Athènes, mais on a des tribunaux d'une telle ampleur dans d'autres cités, qui sont également attestés. J'ai mis l'exemple de Kos, toujours page 3, avec le compte-rendu d'un procès où l'on voit que 78 condamnations ont été exprimées et 126 acquittements. Donc on avait 204 juges qui ont exprimé leur vote. Vraisemblablement, il devait y en avoir un de plus, au moins, pour avoir un nombre impair. Mais plus fréquemment, dans les cités grecques, donc avec un corps de citoyens de 1200 à 2000 membres environ, on a des tribunaux qui vont de 15 à 30 juges. Il faut multiplier le nombre de tribunaux. Il peut y en avoir une dizaine qui siègent en même temps. Et on les multiplie également en fonction des sessions. Donc des sessions qui durent quelques semaines, quelques mois, cela dépend. Et on obtient quand même, proportionnellement, un nombre de citoyens très important par rapport à des corps civiques d'environ 2000 membres, ce qui nous fait conclure qu'être juge n'est absolument pas extraordinaire dans une cité grecque. Ce n'est pas du tout comme chez nous, où la probabilité d'être juré est quand même assez faible. Là, non. C'est un devoir civique habituel. Et par conséquent, il fallait être extrêmement disponible pour répondre à ce devoir civique, puisqu'on pouvait être appelé très rapidement pour venir siéger. Le deuxième tirage au sort, à partir du premier panel de juges tiré pour l'année, se fait quelques jours avant la tenue du procès. Donc, le juge est un citoyen qui doit faire preuve d'une très grande disponibilité, presque quotidienne, parce qu'il existe des vacances, bien sûr, des tribunaux, mais relativement rares. Ainsi, la figure du juge est si intrinsèquement liée à la citoyenneté que réciproquement, cette fonction, le juge, va servir à définir le citoyen. Alors, je m'explique. La charge de juge est si importante aux yeux des citoyens que les seuls signes du juge sont des marques de la citoyenneté. Et un des signes importants est la petite plaque qui s'appelle le pinakion, au pluriel les pinakia, qui va servir à tirer au sort les juges. Sur cette plaque que vous avez représentée, page 4, petite plaque en haut de la feuille, on a le nom du citoyen. On va ensuite mettre cette plaque dans le clairotérion et puis on va tirer au sort les juges. Ces plaques sont si importantes que les citoyens, certains citoyens, vont se faire enterrer, inhumer, avec cette plaque qui montre que la garder jusqu'à la tombe était une manière de montrer toute l'importance de la fonction de juge, qui montrait aussi une fierté, une assimilation entre le rôle de juge et le citoyen, le statut de citoyen. On en a retrouvé à Rhodes beaucoup. Autre équivalence entre la fonction de juge et le citoyen, le langage judiciaire, tout simplement. On ne dit quasiment jamais juge dans un procès. Que ce soit un réquisitoire, un plaidoyer, on va dire athénien, quand le procès se passe à Athènes évidemment, on va en appeler au citoyen. Donc l'orateur dira sans cesse athénien, citoyen athénien, athénien écoutez-moi, parce qu'il en appelle vraiment à la fonction civique. On ne juge pas indépendamment de son statut de citoyen. Et quand on ne dit pas athénien, parce qu'à force la répétition deviendrait lassante, on dit andres. Donc andres, aner, andres au pluriel, c'est l'homme, mais l'homme politique, l'homme dans son statut de guerrier, de défenseur, de juge, donc tout ce qui représente le citoyen. On a énormément d'exemples dans les textes des orateurs attiques qui montrent qu'en appeler au juge, c'est d'abord en appeler au citoyen, au sens de la citoyenneté. Autre signe du lien entre le juge et ce qu'il y a de plus profond dans la citoyenneté, c'est la limite d'âge, tout simplement. Dans de nombreuses cités, pour être juge, la limite d'âge inférieure est la même que pour être magistrat des magistratures importantes. Donc les magistratures financières essentiellement. La présence de cette limite d'âge montre l'importance que la cité accordait à cette fonction. Donc les cités étaient très fières de ces juges qui appartenaient à toutes les classes sociales, qui n'ont jamais été recrutés de manière censitaire. On est très loin du monde romain. Et les Romains ont d'ailleurs vanté les tribunaux grecs, la constitution des tribunaux grecs. On trouve ces textes, par exemple, chez Cicéron, page 5. Donc Cicéron vante les tribunaux rhodiens dans des paroles qu'il fait tenir à Scipion. Je lis uniquement la fin du texte. « Les mêmes citoyens jugeaient des affaires capitales et de toutes les autres. Chacun pouvait et valait autant que la multitude l'avait décidé. » Et chez quelqu'un qui en général n'a pas les mêmes idées que Cicéron, donc le pseudo Salluste, on a exactement la même constatation. Jamais les Rhodiens, ni d'autres cités, n'ont eu à se repentir de la composition de leurs tribunaux, dans lesquels, sans distinction et d'après la loi du sort, vous vous souvenez, le tirage au sort, c'est très important pour les Grecs, le riche et le pauvre se prononcent de la même manière sur les plus grandes et les moindres affaires. Donc, Rhodes, évidemment, est très connu pour ses institutions et pratiques démocratiques, mais on n'a aucune attestation dans les autres cités d'un système censitaire. La seule fois où apparaît le système censitaire, il avait été mis en place par un proconsul romain, donc cela n'a rien à voir avec l'esprit grec. La conséquence de cette qualité du juge, d'abord citoyen, est qu'il n'est en rien un spécialiste du droit. D'ailleurs, on ne lui demande pas. Le procès grec consiste à répondre par oui ou par non à une question qui a été formulée par le magistrat instructeur. C'est un peu anachronique de dire instructeur, mais c'est effectivement le magistrat qui va instruire le procès. Et le magistrat va donc rédiger la question. L'accusé est-il coupable ou non, ou alors d'autres questions, et les juges vont répondre par un vote oui ou non. C'est tout. Il n'y a pas de délibération entre les juges, il n'y a pas de motivation de la sentence. Si le vote est positif, on revote une seconde fois pour choisir la peine entre ce qui a été proposé par l'accusé et ce qui a été proposé par l'accusateur. Donc ce système sans juge professionnel interdit la justification des sentences, donc interdit de fait l'appel, le recours. Mais c'est normal, idéalement, le vote venant des citoyens ne peut que être juste. Donc il n'y a aucune raison de le remettre en cause. Il est le résultat de la conscience de chaque citoyen face aux lois de la cité. Ça, c'est l'idéal. pour être citoyen, on n'en est pas moins homme. C'est maintenant que commencent certains problèmes du juge dans les cités grecques. Cette figure idéale du citoyen devenant juge et accomplissant son devoir conformément aux lois n'a bien sûr pas résisté très longtemps aux aléas historiques de la cité grecque, à la réalité de la vie des cités. Et l'évolution des juges a été évidemment la même que celle des citoyens. Ce que l'on va reprocher progressivement aux citoyens va se trouver reproché également aux juges. Alors, il y aura deux gros reproches. Il reproche, le mot est faible, totalement opposé entre Athènes et les autres cités. Que se passe-t-il à Athènes ? Périclès, donc époque classique, Périclès va instaurer une rétribution pour les juges, à l'instar de ce qui se passait déjà pour les autres magistrats. En grec, on appelle cette rétribution le mistos. Ce n'est pas énormément, mais c'est une allocation qui permet de rentabiliser la journée de travail perdue. On se trouve en plus à une période de guerre où un grand nombre de citoyens athéniens qui habitaient sur le territoire d'Athènes, donc hors de la ville, se retrouvent dans la ville parce que le territoire est régulièrement assiégé et ravagé. Donc ils sont assez désœuvrés. Appelés à juger avec une rétribution, ils vont venir juger, bien sûr, et les tribunaux vont se trouver envahis par ce peuple de citoyens, bien sûr. Et comme dans la ferme des animaux, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Là aussi, tous les citoyens sont égaux, mais on reprochera à ces citoyens nouveaux juges qu'on ne voyait pas auparavant dans les tribunaux, tout simplement parce qu'ils habitaient loin ou parce qu'ils n'étaient pas payés et qu'ils ne pouvaient pas manquer leur journée de travail, donc ils s'abstenaient. On leur reprochera de ne pas savoir juger, d'être sensibles au spectacle déchirant que leur offrent les défenseurs, de répondre au pathos, de répondre aux arguments des démagogues, d'être partiaux. Et le poète Aristophane a définitivement fini de les stigmatiser dans la pièce Les Guêpes, que vous devez tous connaître, où il met en scène un vieux juge, Philocléon, pardon, qui est atteint d'une maladie, il adore juger. Et il apprécie énormément le pouvoir que lui confère ce rôle. Alors il s'appelle Philocléon parce que Cléon était un démagogue et un des dirigeants d'Athènes qui va monter le mistos, qui va augmenter le mistos. Et son fils qui va essayer de l'empêcher de juger va s'appeler Bdéliclon, celui qui déteste Cléon. Je vous ai mis le texte d'Aristophane, page 6, dans lequel le vieux juge explique à son fils pourquoi il est si intéressant de juger. Donc, vous lirez, en clair, le juge a un pouvoir énorme. Il a le pouvoir de répondre ou non aux supplications, de condamner ou d'acquitter. Et cela a l'air de se faire de manière très subjective. Mais en tout cas, Philocléon finit par « N'y a-t-il pas là une grande puissance et de quoi se moquer de la richesse ?» Donc c'est à peu près la figure du juge qu'on avait à Athènes à l'époque classique. Et je pense que cette figure fait écho pour vous au propos de Julie Allard dans sa conférence sur ce que disait Platon du juge de la cité. Le juge simple citoyen, il est bien décrit par Aristophane. Attention, tout cela est à prendre avec des nuances. Aristophane est un poète particulièrement orienté dans cette pièce. On a dans les autres cités d'autres reproches à l'encontre du juge, mais des reproches tout autres. Dans les autres cités, c'est un peu l'inverse. On reproche dans ces cités où le corps des citoyens est réduit, on reproche au juge de venir toujours des mêmes familles, donc d'être naturellement enclin à la corruption, au favoritisme. Et bien sûr, la proximité entre les juges et les partis devait enlever tout sentiment d'anonymat et d'impartialité des cours de justice dans des cités où le nombre de citoyens est de 1000 à 2000 personnes. Donc on avait beaucoup de tentatives de corruption des tribunaux, beaucoup de partialité, à tel point que à la fin du IVe siècle, fin d'époque classique et au moment où l'on passe à l'époque hellénistique, le siècle suivant, globalement, certaines cités voient leur justice complètement paralysée. Les tribunaux ne fonctionnent plus, les parties ne leur font absolument plus confiance, elles ne veulent plus porter leurs affaires devant les tribunaux, et on a des paralysies de la justice attestées de l'ordre de 50 ans parfois. C'est énorme dans la vie d'une cité. On est ici exactement, dans l'histoire de la justice et des juges, en parallèle avec ce qui se passe pour les cités. À Athènes, on reprochait à la démagogie et à une nouvelle classe politique d'être arrivée au pouvoir. Et dans les autres cités, on reprochait également à quelques citoyens de s'accaparer le pouvoir. C'était les oligoïs, les peu nombreux, qui dirigeaient la cité. Donc on a exactement la même chose du côté des tribunaux. À Athènes, des tribunaux trop nombreux, avec vraiment le peuple qui ne s'est pas jugé, entre guillemets bien sûr. Dans les autres cités, des tribunaux avec toujours les mêmes notables, qui ne sont plus dignes de confiance. La conséquence est la paralysie de la justice d'un côté comme de l'autre. Dans le monde grec, on a vraiment une crise de la justice à la fin de l'époque classique. Crise dont, je le dis encore une fois, on a des échos chez Platon, mais là on va avoir la réponse historique bien sûr, et non pas la réponse du philosophe. Les cités en effet vont tenter de pallier les défauts des juges citoyens en cherchant des juges au-dessus de tout soupçon. C'est l'objet de ma deuxième partie. C'est effectivement vers un citoyen au-dessus des autres qu'évolue la figure du juge à la fin de l'époque classique et durant toute l'époque hellénistique. Alors si l'on reprend les constats, d'abord, le juge doit être d'une grande disponibilité, et bien sûr honnête, et d'une impartialité sans faille. Au moment où ces qualités sont vivement réclamées, et que être citoyen ne suffisait plus vraisemblablement pour être un bon juge, on observe une pénurie des juges dans les cités. Parce que beaucoup de citoyens n'ont plus envie de remplir cette charge chronophage, et parce que ceux qui remplissent cette charge n'obtiennent plus le consensus et la confiance nécessaires. Donc la première réponse va être un changement du mode de désignation des juges. Si dans les grandes cités que sont Athènes, Délos ou Rhodes, nos modèles en général, le tirage au sort continue, en revanche, dans nombre de cités à l'époque hellénistique ou à la fin de l'époque classique, on va passer ou bien à un tirage au sort ou bien à une élection, mais à partir d'un nombre de candidats déclarés. Donc on a déjà réduit considérablement le nombre de juges potentiels parmi les citoyens. Et comme ces candidats ne sont pas très nombreux, les cités ont tendance à leur décerner des décrets honorifiques, dont on a quelques exemplaires, puisqu'elles les affichent de manière lapidaire. Dans ces décrets, on a les qualités que requiert le rôle de juge. Le premier constat est que ces décrets ne laissent aucun doute sur la possibilité d'être juge plusieurs fois et sans délai d'itération. C'est assez neuf. Cela prouve qu'il n'y avait vraiment que très peu de citoyens candidats. Et la rotation devenait incertaine. Donc on a aussi des paralysies de la justice, faute de juge tout simplement à cette époque. La figure du juge est désormais celle du citoyen qui a du temps, qui a de la disponibilité et qui a de l'argent pour compenser les journées perdues, donc souvent un rentier. Et cela est d'autant plus important qu'à Athènes, en 411, on supprime le mistos, donc il n'y a plus d'indemnité. Il reste dans d'autres cités, mais il est très très faible, il ne suffit pas à compenser une journée de travail. Donc peu à peu, la charge devient l'apanage des citoyens fortunés, qui peuvent consacrer du temps à cette activité sans nuire à leur niveau de vie. Donc les citoyens qui disposent de l'otium romain, c'est un terme qui n'est pas du tout grec, l'otium c'est la disponibilité et l'aisance financière qui permettent de se consacrer aux affaires plus politiques. De manière parallèle, cela explique la défiance et la méfiance des citoyens envers les tribunaux, puisqu'on a vraiment des juges qui font partie d'une classe très particulière. mais on maintient toujours la fiction du juge. Le juge est un citoyen. Et les honneurs accordés sur les stèles, que l'on voit gravés sur les stèles de pierre, sont des honneurs relativement modestes, une couronne, une stèle, avec sans cesse le contrôle du peuple. Donc on voit sans cesse dans le décret la présence du peuple. Le peuple a décidé qu'on va donner tel honneur au juge, mais c'est bien le peuple qui contrôle toujours et qui honore un juge citoyen. Donc là, on est vraiment dans une fiction. Parce que de juge citoyen, on est passé d'un citoyen privilégié pour juger. En fait, on a désormais des juges qui sont les oligoïs, ces quelques citoyens maîtres de la vie politique des cités. J'ai mis un exemple de ces décrets. Alors, j'ai mis plusieurs décrets pour les juges, page 7 et suivante. Le premier est présenté avec le texte grec, c'est juste une indication, un exemple, pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Dans le premier cas, j'ai mis un exemple où les juges ont été corrompus. Enfin, ils ont résisté à la tentative de corruption, mais en tout cas, la cité a souligné dans le décret qu'il y a eu une tentative de corruption. Comme quelqu'un avait tenté de les corrompre à l'occasion de certaines affaires, ils ne l'ont pas passé sous silence, mais après avoir fait réunir une assemblée extraordinaire des citoyens, ils ont dénoncé ouvertement celui qui avait cherché à accomplir une manœuvre malhonnête et illégale. Donc cela vous donne un peu une idée de l'ambiance qui pouvait régner dans ces cités autour de l'affaire que devient la justice. Et puis j'ai mis un décret très emblématique du juge idéal à cette époque. C'est le juge Callicratès, fils de Léagoras, dans une cité d'Asie mineure qui s'appelle Érythrée. Et Callicratès a bien voulu rester au-delà du temps qui lui était demandé pour juger les procès. Donc, sur la stèle de son page 8, sur la stèle du décret qu'il honorait, on a rappelé que le peuple a prescrit que les jugements également assignés devant le tribunal de la cité soient bien et justement conduits. Donc ça, c'est très important. On rappelle sans cesse que le peuple fait en sorte, le peuple, l'assemblée, la cité, que les jugements aient lieu. Et qu'il y a pourvu d'avance avec les juges proclamés chaque année lors des grandes assemblées législatives, etc. Et à la fin, on a un passage tronqué, la pierre est abîmée, mais on voit que Callicratès est resté pour juger les procès à la suite des délais fixés. Donc voilà pour ce changement de désignation des juges et cette nouvelle figure qui est aussi, enfin qui a tendance à aller vers des oligarches, des oligoïs, pardon, il vaut mieux dire oligoïs parce que sinon on a d'autres idées qui viennent en tête. Donc cette petite frange de la population des cités grecques qui avait tous les pouvoirs. Autre réponse au problème de la justice à la même époque. Puisqu'on cherche un juge au-dessus du tout soupçon, un juge élevé avec un regard distancé, on va tout simplement se tourner vers un juge qui n'appartient pas aux cités grecques. Et le premier qui apparaît est le gouverneur romain. On est à l'époque où Rome a transformé les cités grecques en provinces romaines progressivement. Et à la tête de chaque province, Rome met un gouverneur de rang proconsulaire qui a des assises. Ces assises, bien sûr, ne concernent que les affaires romaines, mais y ont accès tous les citoyens romains. Or, la plupart des citoyens grecs notables dans les cités obtiennent de manière honorifique la citoyenneté romaine. Donc, ils ont une double citoyenneté, voire une triple citoyenneté, c'est possible. Et dès qu'ils ont cette citoyenneté, ils ont tendance à aller porter leurs affaires devant les assises du gouverneur romain, qui va aussitôt les renvoyer devant les tribunaux de leur propre cité, parce que l'affaire ne concerne en général absolument pas Rome. Mais en tout cas, on a cette tendance que l'on retrouve un peu dans la colonisation, cette fierté, quand on a une nouvelle citoyenneté, à utiliser tout de suite ce que nous offre cette citoyenneté. Donc la tendance est bien présente de chercher désormais un juge au-dessus du traditionnel anonymat des juges, des tribunaux, des cités grecques. Alors c'est une tendance qui n'a pas eu vraiment d'effet, puisque, comme je le dis, le gouverneur, le proconsul, ne peut que renvoyer l'affaire devant les tribunaux des cités grecques. Mais en tout cas, c'est certainement dans ce souci d'impartialité et de distance que trouve sa source le phénomène le plus frappant de la justice des cités grecques à l'époque hellénistique, qui est celui de l'appel aux juges étrangers. Alors, c'est une pratique complètement originale qui n'est pas liée à l'arrivée des Romains, même si elle coïncide de manière chronologique. C'est un peu par hasard. C'est un phénomène qui commence très lentement à la fin de l'époque classique et qui va prendre une ampleur extraordinaire durant toute la période hellénistique. C'est vraiment ce qui marque la justice de l'époque hellénistique, les juges étrangers. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Tout simplement, quand les tribunaux de la cité ne fonctionnent plus, la cité va avoir recours aux juges d'une autre cité qu'elle va appeler. Donc la cité grecque va faire un décret porté dans une autre cité amie, alliée, il y a énormément de liens entre les cités, pour demander l'envoi de quelques juges, d'un tribunal ou d'un juge et d'un secrétaire. Les modalités d'intervention des juges étrangers sont toujours les mêmes. Ils arrivent escortés par un citoyen de la cité qui appelle, que l'on appelle le dicastagogue, celui qui conduit les juges. Ils vont établir un tribunal ou bien avec les juges d'une même cité, ou bien avec un parpanachage avec des juges de plusieurs cités, originaires de plusieurs cités, et vont juger tous les jugements qu'on leur soumet. Donc, on a des tribunaux de 5 ou 6 juges au maximum, alors qu'on était avant dans des tribunaux de 30 juges en moyenne, 400 juges, dans certains cas assez rares tout de même, mais on a ici un passage extraordinaire à des tribunaux de quelques juges. Donc, par cette pratique, on passe de juges anonymes dans des tribunaux de moyenne ampleur, à quelques juges bien distingués qui siègent dans de très petites cours. Donc la figure du juge a changé considérablement. Il ne s'agit plus d'un citoyen parmi d'autres dans une foule de jurés, mais bien d'un individu distingué par lequel la cité retrouve une stabilité judiciaire. Donc en clair, le juge devient un homme remarquable, dans tous les sens du terme. Cela justifie que l'on ait décerné à ces juges étrangers des décrets honorifiques qui nous donnent une bonne image de ces juges par les qualités que l'on honore chez eux, mais qui nous donnent aussi une bonne image du juge tel que le souhaite la cité grecque. Ils vont en effet proposer et dessiner une nouvelle figure du juge. Ce sera l'objet de ma troisième et dernière partie. Donc les décrets des juges étrangers sont des décrets formulaires, on retrouve toujours les mêmes phrases, sous copie les uns les autres, tout simplement, avec des constantes dans les qualités honorées, qu'il s'agisse des juges étrangers, puis ensuite des juges dans leur propre cité, parce qu'il va y avoir un retour dans la cité. Et ces décrets ont une double destination, honorer bien sûr le juge étranger et sa cité, et surtout dresser de manière performative le portrait du juge tel que l'on souhaite qu'il soit désormais, tel que les citoyens sont implicitement invités à se conformer. Ce genre des décrets des juges étrangers est très récent à l'époque hellénistique. Les juges ne faisaient pas du tout partie des personnes que l'on honorait parmi les citoyens. Donc, on a une nouvelle perception du juge dans la cité. Dans ces décrets, plusieurs thèmes reviennent sans cesse. Le premier thème, c'est la réconciliation. Le juge est celui qui va permettre que la concorde revienne dans la cité. C'est extrêmement important. J'insiste encore, on est dans des toutes petites structures des cités de 2000 citoyens, donc ça fait un peu plus, bien sûr, d'habitants, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas citoyens, les femmes, les enfants, les étrangers domiciliés. Mais quand la guerre civile arrive dans ces cités, c'est une catastrophe. Donc le juge est vraiment celui qui va ramener la concorde, qui va résoudre les différends. Et la concorde est une déesse très très importante, autant du côté grec que du côté romain. Par corrélation, le juge est celui qui ne va pas épargner son temps pour concilier les parties. C'est nouveau. Auparavant, la tentative de conciliation se faisait ou bien par un arbitrage, mais ensuite l'affaire ne pouvait pas aller en justice, ou bien par le magistrat qui introduisait l'affaire, mais jamais par le juge. C'est normal, les jurés arrivaient le jour du procès. Donc là, le juge, désormais, est remercié pour ne pas avoir épargné son temps, et ce n'est pas du tout une formule rhétorique. On a beaucoup de décrets où l'on voit que les juges étrangers avaient demandé à rentrer chez eux avant la fin des jugements, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop et qu'ils avaient autre chose à faire chez eux. Donc on les remercie pour être des hommes bons et beaux, c'est une formule grecque, kaloi kagatoi, ce sont vraiment des bons citoyens. On souligne également pour leur première fois leur impartialité. Donc ce sont les mêmes thèmes qu'avant, mais cette fois-ci la cité met des mots sur ces mots. Et ce qui va de pair, on souligne que les juges n'ont pas succombé aux tentatives de corruption. Enfin, le dernier thème, très nouveau cette fois-ci, dans les décrets pour les juges étrangers, est que les juges ont jugé conformément aux lois. C'est neuf. Cela prouve que d'abord, ils devaient connaître les lois. Et il y a ici un retour, une aspiration de l'époque hellénistique à la loi, à l'idée de cité fondée par ces lois et qui repose sur ces lois. Donc le juge devient désormais un sage, au-dessus des différends. Il reste toujours lié à la figure du citoyen, car en jugeant, il fait honneur à sa patrie. Et un des honneurs que lui accorde la cité qu'il a appelée est la citoyenneté. Je vous ai dit, on peut avoir plusieurs citoyennetés, bien sûr. Là aussi, c'est nouveau. On va accorder au juge donc la citoyenneté, et un honneur très particulier, c'est le statut d'évergète, le bienfaiteur de la cité. Donc on n'est plus du tout dans les petits honneurs qu'on accordait au juge il y a quelque temps. Donc une couronne, une stèle. Désormais, ce sont les plus grands honneurs de la cité. La première place lors des jeux, la proédrie, la citoyenneté, le droit, parce qu'on est quand même très matériel, le droit d'acquérir de la terre un bien dans la cité, le droit de participer à la justice, d'accéder aux tribunaux, etc. Le juge devient un véritable citoyen, de nouveau. On a donc affaire à un véritable changement social des juges. Avec la pratique des juges étrangers, le niveau social des juges a considérablement changé. C'était déjà devenu l'apanage des citoyens favorisés. Maintenant, ce sont vraiment les élites des cités qui sont envoyées. Bien sûr, une cité ne va pas choisir des gens qui ne sont pas capables d'assumer financièrement le voyage, de répondre correctement à ce qui leur est demandé, donc ils connaissent à peu près les lois, et elle va envoyer les meilleurs de ses citoyens. Chaque fois que l'on peut faire des rapprochements prosopographiques, des rapprochements entre les noms, on voit que les juges sont issus des plus hautes classes des cités. On connaît par exemple un magistrat monétaire, un prêtre d'Isis, le frère d'un stratège, un stéphanophore. Le stéphanophore est un magistrat qui donne son nom à l'année pour la cité de Priène. Tous des notables aisés, donc, qui ont une activité publique, qui ont déjà rempli d'autres fonctions et qui font partie de familles en vue dans les cités. Cela implique qu'un petit groupe de citoyens fortunés devait juger l'essentiel des affaires de leur cité, voire des cités, et ont transformé le rôle de juge en charge de notables. Donc, progressivement, la justice n'est plus le fait de l'ensemble des citoyens, mais bien de l'élite des cités, avec des tribunaux de petite taille, et une décharge symbolique du citoyen disparaît progressivement dans les faits pour devenir celle d'un petit nombre. Cette évolution est caractéristique du deuxième et du premier siècle avant Jésus-Christ et elle va de pair avec l'évolution politique de la vie des cités grecques qui deviennent le lieu où un petit nombre de notables assure le pouvoir. Donc quand on parle de démocratie grecque, il faut bien faire attention qu'effectivement on est dans des systèmes démocratiques, mais ça ne veut pas dire que tous les citoyens vont participer à la vie politique. On est bien dans un système d'élite locale que va très bien comprendre Rome et qu'elle prendra soin d'honorer. Dernière conséquence de cette évolution, c'est la spécialisation pour la première fois des juges. Par le recours aux juges étrangers, apparaissent des juges presque professionnels. Les mêmes personnes reviennent dans les différents décrets. Donc on sait que les mêmes juges ont été envoyés dans différentes cités, avec des sortes de tournées. Et avec les juges, on envoie également un secrétaire qui est souvent le fils de l'un des juges, qui devient quelques années plus tard juge également. Donc aux critères de la richesse s'ajoute désormais pour la première fois le critère de la compétence. Et tous les décrets pour les juges étrangers font mention de cette compétence. Quand on observe la carrière entre guillemets des juges étrangers, on voit qu'ils se sont souvent spécialisés dans les affaires de justice dans leur propre cité. Ils ont défendu souvent la cité. Et ensuite, ils sont envoyés comme juges étrangers, puis ils reviennent dans leur cité où ils sont également juges. Il serait faux de parler de professionnalisation parce que les juges accomplissent bien d'autres fonctions, mais on a bien là une spécialisation dans le domaine judiciaire. Progressivement, on s'aperçoit qu'il y a une petite opposition entre les juges étrangers qui vont accumuler, ou les juges en général, qui vont accumuler les fonctions judiciaires et puis les autres magistratures. Être juge implique pour la première fois la capacité d'un apprentissage rapide des lois de la cité, bien sûr, mais des autres cités. Et donc, la charge des juges n'est plus considérée comme une charge comme les autres. Alors, une des preuves, un peu par l'absurde, c'est que les membres d'une même famille vont être juges. Le père, le fils, on va avoir des dynasties de juges, là aussi pour la première fois. Cela traduit une attitude tout à fait nouvelle. La justice se trouve assurée par un notable qui a désormais rempli toutes les charges importantes de la cité. C'est une dernière responsabilité de citoyen en vue et de citoyen qui a souvent participé à la justice. Et ces citoyens vont participer à la rédaction des décrets qui vont les honorer eux-mêmes. Dans ces décrets, ils vont donner d'eux l'image d'hommes justes par excellence. Donc ils vont conférer dans leur propre cité une nouvelle aura pour la première fois à la charge de juge. Je vous ai mis une série de décrets pour les juges étrangers. Donc, c'est toujours les mêmes formules qui reviennent. Vous les lirez si vous voulez. Et puis j'ai fini par un décret pour un juge dans sa propre cité. Donc c'était un juge étranger, il revient ensuite dans sa propre cité. Et on voit que la cité le loue dans les mêmes termes que les juges étrangers. Alors pour conclure, on voit que l'époque hellénistique se révèle être l'aboutissement d'une évolution de la figure du juge dans la cité grecque. On est passé d'un citoyen juré, davantage proche de notre juré, tiré au sort, à un magistrat élu, puis à une magistrature spécifique avec une compétence particulière. Cela est bien sûr le résultat de deux phénomènes parallèles. D'une part, la désaffection des tribunaux de la cité et du rôle de juge par les citoyens, qui est compensée par l'émergence, d'autre part, des élites dans les différentes composantes de la justice, à la fois dans leur propre cité et à la faveur des tribunaux étrangers. Donc un nouveau profil de juge appartenant à l'élite des citoyens, mais également formé de manière héréditaire à l'exercice de la justice, s'impose progressivement, faisant du juge une catégorie particulière des cités, qui n'appartient pas forcément aux quelques citoyens extrêmement riches, mais qui ont quand même des ressources suffisantes pour se consacrer à cette charge, ça c'est sûr, et pour y trouver, peut-être pour la première fois, un intérêt face à ces questions juridiques qui semblaient faire complètement défaut au rôle du juge auparavant. Donc on a désormais des caractéristiques nouvelles pour le juge, la disponibilité bien sûr, l'intérêt intellectuel, la capacité économique et éventuellement l'hérédité. Cette figure propre à l'évolution des cités grecques est très proche de ce que seront pendant des siècles les magistrats. C'est un peu l'ancêtre, même s'il n'y a pas forcément de lien parce que Rome est passée entre-temps. Mais en tout cas, on a déjà là la figure du magistrat telle qu'on va le connaître pendant des siècles. Et la question en ouverture est, est-ce qu'on n'a pas ici la réponse historique aux critiques de Platon qui étaient assurément partagées dans de très nombreuses cités. Merci beaucoup.